parent parce qu'il est professionnel. Oh, moi, je viens d'avoir un bébé. Je vais aller voir les animatrices de relais assistantes maternelles pour avoir des adresses. Elles vont me donner des adresses d'ASMAT. Et puis, je vais leur dire, mais ça serait le vôtre, vous le mettriez chez laquelle? Alors, comme elles sont très pros, elles vont m'expliquer que c'est pas le leur. N'est-ce pas? Personnellement, j'ai 4 gamins. Et je suis donc psychosociologue, je vais vous présenter en deux mots mon boulot en rapport avec notre thème. Donc, celui qui a offert la conférence, c'est le psychologue. Et en tant que psychologue, et vous avez vu, je l'ai dit, hein, je suis très bon. Je sais que vous le savez, mais vaut mieux le dire soi-même, il y a des gens qui ne savent pas. Hein. Donc, j'ai des super théories, hein. Ça fait 40 ans que j'ai les mêmes, mais j'y crois. Eh bien, avec... Alors, c'est ça dont je vais vous parler, hein, sur la construction des repères. Mais, avec les miens, elles n'ont jamais marché. Il n'y a pas de malentendu pour les personnes qui sont venues ou qui m'entendent en tant que parent. Vous voyez, je vais vous dire, je vais vous expliquer pourquoi chaque enfant se développe à son rythme. En termes de repères, pourquoi il ne faut pas comparer nos enfants avec ceux des autres? Pourquoi la précocité des acquisitions, on s'en fiche? Je vous dirai tout ça. Mais c'est vrai en tant que psy, ça. Quand ça nous arrive, c'est vachement bien quand nos gamins sont en avance. Avec ma femme, on a fait, il y a un peu plus de 30 ans, un petit Nicolas. Pour le prénom, on ne savait pas. Enfin, c'est arrivé qu'après. Mais il est beau, hein. C'est le plus beau du monde, après le vôtre. En deuxième position, il est très beau. Mais il a un gros défaut, ce petit Nicolas. Il a une semaine d'écart avec un autre petit Nicolas, dont le papa est un ami pédiatre. Vous savez ce qu'est un pédiatre, hein? Je vous pose la question. Une fois, j'ai rencontré un gars, il croyait que c'était un médecin qui soignait les enfants. Non, tous les enfants le savent. Un pédiatre, un médecin qui soigne les parents. Quand l'enfant sent que ses parents vont pas bien, il se fait une petite asthme, une petite rhinopharyngite pour que les parents aillent voir le pédiatre. Donc ce pédiatre, il a un petit Nicolas et ça fait 30 ans qu'ils ont la même semaine d'écart. Moi, dans mes conférences, je dis « ne comparez pas », enfin tout le machin. Lui, il dit ça dans son cabinet. Eh bien, je dis la précocité, on s'en fout. Je vous redirai tout à l'heure. Je vous expliquerai pourquoi on s'en fout de la précocité. Eh bien, les nôtres, ça fait 30 ans qu'on se les compare. Alors, le mien, il a marché avant le sien. J'étais vachement fier. Il avait tout juste 11 mois, il marchait. Oh, je me mettais devant, je faisais bravo. Un jour, je me suis mis sur le côté. J'ai fait bravo, il a tourné la tête, il est tombé. Le pédiatre m'a dit, c'est le cervelet, l'oreille interne. Je me mets devant. Mais le sien, comme une bête dans le sable. Alors je l'ai rassuré en tant que psy, je lui ai dit, tu sais, chacun se développe à son rythme. Et le sien a marché à 18 mois. On verra dans quelques instants que la marche entre 10 et 21 mois. Et je vous expliquerai scientifiquement pourquoi c'est cela. Hein? 18 mois. Enfin, il me dit, je sais que c'est normal, mais ça fait long, quoi. Et le sien, 3 mois après, il s'est mis à parler. Le nôtre, 4 mois plus tard, pas un mot. Et lui, en tant que pédiatre, il me disait, c'est le langage, c'est extrêmement variable d'un enfant à l'autre. En plus, le nôtre allait à la crèche, il mordait. Et la directrice de la crèche m'a dit, mais c'est normal qu'il morde, vu qu'il ne parle pas. Elle a même prétendu que c'était moi qui avais appris en cours. Mais c'est le psy qui avait appris en cours. Avec ma femme, on était dans les librairies de psycho pour savoir si ce n'était pas dû à un allaitement tardif ou un problème avec le grand-père. Hein? Donc, si vous voulez... Je vais vous dire des trucs qui sont vachement bien en théorie, quoi. Et certains d'entre vous, en tant que parents, par exemple, vont être assez sympas pour dire, oh, ça a l'air bien ce qu'il dit, on va essayer. Et moi, le lendemain, je reprends toujours très tôt le train pour pas vous rencontrer dans la rue. Si je vous rencontre une fois que vous avez essayé, c'est foutu, vous voyez. Donc, je peux prendre le train pour aller ailleurs, dire le même truc. Alors, en deux mots, deuxième petit élément, d'ailleurs, en rapport avec notre thème. Donc, la juste place, juste place. Le professionnel va faire attention de laisser la place aux parents. Hein. Mais, le deuxième volet, il n'est pas toujours facile, entre professionnels et parents, de communiquer, d'être à sa juste place. N'est-ce pas? En clair, dans une société, on va y revenir, où tout est compétition, précocité, etc. Eh bien, vous pouvez avoir deux clients. Vous avez en tant que professionnel l'enfant dont vous connaissez les besoins et vous avez le parent qui peut avoir d'autres besoins. N'est-ce pas? Peut-être que ce parent va, en toute bonne foi, pour aider son enfant, mais par manque d'infos, dire « empêchez-le de dormir, on le mettra au lit plus tôt ce soir ». Ah, j'ai oublié de vous dire, dans ma conférence, toute ressemblance sera possible. Hein. Donc, empêchez-le de dormir, on le mettra au lit plutôt ce soir. Or, il y a des grands dormeurs, des petits dormeurs, des lève-tôt, des lève-tard, des couche-tôt, des couche-tard, des lève-tôt dans des familles de lève-tard, même le dimanche, c'est terrible. Eh bien, on sait très bien, en tant que professionnel, qu'on peut empêcher un enfant de dormir, mais qu'on ne peut pas l'empêcher d'avoir sommeil. Or, si cet enfant a besoin de faire la sieste, hein, eh bien, si on l'empêche de faire la sieste, il va beaucoup moins bien dormir la nuit, n'est-ce pas ? C'est une question d'info. Se pose la question, juste place, partenariat, parents professionnels, comment réagir face à une telle demande ? Empêchez-le de dormir, on le mettra au lit plutôt ce soir. Est-ce que le professionnel va faire ce que le parent lui demande ? Dommage pour l'enfant. Est-ce que le professionnel va mentir ? Et dire aux parents, je fais comme vous dites. Mais faire autre chose, c'est un péché. Est-ce que le professionnel de l'enfance va exercer son talent de professionnel de la famille pour expliquer à des parents pourquoi, expliquer un peu les rudiments du sommeil et expliquer pourquoi un enfant qui a besoin de dormir, c'est important de respecter son sommeil. C'est le professionnel de la petite enfance d'ailleurs, un sacré boulot à faire, ce qui permettra aux parents après à l'école maternelle de ne pas dire en moyenne section empêchez-le de dormir pour le préparer au CP. N'est-ce pas ? On se dira peut-être quelques mots du sommeil. C'est important. Deux clients. Peut-être que cet autre parent veut faire un surdoué. Et qu'il a été... C'est surtout pas une critique des parents, hein, mais d'une société qui se veut très compétition. Qui veut que son enfant rentre dans le moule. Absolument. On se redira quelques mots des moules. Je vais vous dire quand même un petit mot extraordinaire que j'ai appris il y a peu de temps. À propos des moules, depuis 20 ans, je fais partie d'un groupe qui organise la semaine du goût. La semaine du goût, là, ça a commencé ce matin, autour du thème des petits déjeuners. Et au mois de juin, on ficelait les derniers éléments de cette année. Il y avait dans notre groupe un jeune de 27 ans, un pâtissier haut de gamme, chef pâtissier chez Le Doyen, un très grand restaurant parisien, 27 ans, c'est rarissime. Un type sympa, qui a deux petits gamins, et je dis, c'est dingue quand même que les enfants, maintenant, on les oblige à rentrer dans le moule. Eh bien, je vais vous faire une confidence, j'ai demandé s'il avait le copyright là-dessus, il m'a dit non. Il y a eu une phrase de pâtissier extraordinaire, il m'a dit, mais si les enfants, on les fait rentrer dans le moule, ils vont devenir tartes. Ça m'a marqué ce truc-là. Vous vous rendez compte ? Et c'est une évidence, hein, danger de faire entrer l'enfant dans le moule. Alors, deux clients. Peut-être que ce parent qui veut faire un surdoué va dire débrouillez-vous comme vous voulez, je veux qu'il soit propre à 2 ans. Pour rentrer tôt à la maternelle, pour savoir lire avant le CP, pour avoir une bonne 6e d'allemand. Il n'a pas été prouvé scientifiquement qu'il y a un lien entre le contrôle précoce des sphincters de la vessie et l'apprentissage des langues étrangères. On n'a pas réussi à faire le lien, mais ça semble, et s'il fait l'allemand en 6e, il augmente ses chances d'avoir un bac S, donc de faire plus tard des études de Sciences Po, dont l'homonymie avec les séances Po pipi précoce ne peut laisser personne indifférent. Dans quelques instants, on se parlera de l'apprentissage de la propreté, construction des repères, et je vous dirai pourquoi, scientifiquement, aujourd'hui, mais depuis plus de 10 ans, on sait que la propreté, c'est entre 2 et 6 ans. N'est-ce pas ? C'est important, ce volet-là. Petite parenthèse, toutes les connaissances acquises devraient contribuer à rassurer les parents, sauf qu'elles n'arrivent pas jusqu'aux parents. Ce qui arrive, c'est des comparaisons. Il faut qu'ils soient propres à 2 ans. Petite parenthèse, d'ailleurs. Bon, on est en octobre, reposez-vous, ça recommencera qu'en mars. À propreté. Hein. Mais j'adore aller dans des crèches, dans des relais assistantes maternelles, en juin, pour voir des petits loupiaux, mâles ou femelles, de 2 ans et demi, 3 ans, qui vont passer en septembre à l'école et qui ne sont pas encore propres. Quand on regarde de près, c'est bizarre parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour être propres, semble-t-il. Comment que ça se fait qu'ils ne sont pas propres ? Dans chaque crèche, j'en vois 2-3, hein, en juin. Alors je les emmène dans un coin, puis on parle de la propreté, du pipi dans le pot, du machin. Hop. Et avec leurs mots, qu'est-ce qu'ils me disent ? Eh bien, je vous ferai une confidence. 9 fois sur 10, voire plus, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont entendu, avec leurs mots, hein, qu'ils ont entendu leurs parents dire « On attend qu'il soit propre pour le mettre à l'école. » Le mec, il a le pied sur le frein, dites donc. « Tant que je suis pas propre, je reste chez la nounou. » Vous voyez ? Alors, rassurez-vous, l'histoire finit bien. Comme ça fait 3-4 mois qu'ils sont propres déjà. Eh bien, ils passent à l'école et en 15 jours, ils sont propres. Petite parenthèse, à condition que la mayonnaise prenne bien avec l'instit. Il m'arrive, parce qu'il y a beaucoup d'affectifs dans ces apprentissages-là, dans ces repères, hein, il m'arrive souvent aussi de voir des enfants qui étaient propres à la crèche ou à l'assistante maternelle et qui redeviennent sales, entre guillemets, à l'école, parce que la mayonnaise prend pas. Mais en 15 jours, il est devenu propre à l'école. Ce qui permet à la maman de revenir, ou aux parents, de revenir en octobre voir la nono en disant, vous avez vu la maîtresse, en 15 jours, elle l'a rendue propre. C'est-à-dire qu'elle a été fichue en 15 jours de faire ce que vous n'avez pas été foutu de faire en 3 ans. Hein. C'est un compliment. À moins qu'elle l'ait attaché 24 ans sur le pot. Mais si l'enfant, en 15 jours, il a réussi à être propre, c'est que vous aviez bien fait votre boulot. N'est-ce pas? Deux clients, empêchez-le de dormir. Il faut qu'il soit propre à 2 ans. Tiens, on va reprendre un troisième client que je vois plus. Troisième exemple que je vois plus dans les crèches. C'est la phrase... Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ? Sous-entendant, qu'est-ce qu'il a produit aujourd'hui ? Et, allant sur le terrain, je vois dans les crèches, des fois, des équipes qui tombent un peu dans le piège de l'activisme. Je vous dirais des choses monstrueuses dans la conf. Tiens, je vais commencer par vous en dire une tout de suite. C'est que mon intime conviction, c'est qu'il faut laisser un enfant s'ennuyer et trouver par lui-même les moyens de s'en sortir. Alors attention, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il ne faut pas qu'il s'ennuie à plein temps. Hein. Mais il faut surtout qu'il ait aussi les moyens de s'ennuyer, de trouver par lui-même les moyens de s'en sortir, gérer son temps libre. Je vous parlais tout à l'heure du lien entre la petite enfance et les ados. J'ai pendant 4 ans travaillé pour le cadre du Conseil de l'Europe sur les facteurs favorisant la violence chez les jeunes. Ils avaient 8 à 15 ans, les gamins qu'on a vus, il y en avait 1500 qui avaient des comportements violents vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'eux-mêmes. Eh bien, souvent, on retombait, on a publié un rapport européen avec 9 causes de violence. On tombait sur des jeunes qui nous disaient « Bon, pourquoi tu casses ? Parce que je m'ennuie. Pourquoi tu t'ennuies ? Parce qu'il n'y a rien pour nous. Qu'est-ce que tu voudrais ? On ne sait pas. » C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais appris seuls à gérer leur temps. Qu'il y avait toujours eu des adultes sur le dos qui disaient « T'as fini ça ? Tu vas faire ça ? » N'est-ce pas ? Et une fois qu'ils étaient ados, qu'ils n'avaient plus envie d'avoir les adultes, eh bien, seuls, ils ne savaient pas. Laisser partiellement aussi un enfant s'ennuyer, c'est ce que j'appelle les inactivités d'éveil. C'est très important. Eh bien, je vois certaines crèches qui, quelquefois, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, tombent dans le piège de l'activisme. Il y a un programme. 8h à 9h, collage de gommettes ou collier de nouilles, c'est en atelier. 9h à 10h, éveil à la musique. 10h à 11h, motricité. 11h, on se lave les mains, on mange. Midi, sieste. 14h, réveil, mur d'escalade. On parlait du sommeil. Mettez dans une telle crèche, il y en a à coup sûr, un enfant qui a besoin de dormir en fonction de son rythme de vie, la journée, de 2h à 3h, de 14h à 15h. Bon, si on n'a pas prévu un espace pour que des enfants jouent pendant que d'autres dorment ou dorment pendant que d'autres jouent, cet enfant, au moment où il n'a pas sommeil, il va être peut-être condamné pour ne pas gêner les autres à être sur son matelas. Et puis, au moment où il dort, il va peut-être être dérangé de 14h à 15h par les autres qui font du bruit. Il se réveille à 15h avec les paupières en store à l'italienne. Il est encore naze. Il voit les autres qui ont déjà fini le mur d'escalade. Il dit « J'ai déjà paumé une heure sur le programme. » Le papa, la maman arrivant sur le coup de 16h, « Vite, 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 c'est l'heure du poney. Et ce soir, solfège, parce que demain, piano et judo. » Si c'est un garçon, il a intérêt plus tard à épouser une femme autoritaire qui lui dit « Tue-toi la voiture, on va en pique-nique, soit on va chez mes parents. » Oui, chérie. Ses copains lui diront « Ta femme, elle a l'air un peu... Il faut la connaître. » Donc, si vous voulez, problème des surstimulations. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Encore une fois, inactivité d'éveil. Alors, pour planter les décors, je vous dis en deux mots un petit peu en quoi consiste mon boulot. Et puis après, on va énumérer 3 champs de repères. 3 champs de repères que tout enfant a besoin de développer. Le premier sont les repères individuels. Le deuxième, c'est moi, mes compétences. Danger, si on ne rentre pas dans le moule, voire plus haut dans le texte. Le deuxième, c'est les repères sociaux. Les repères individuels, c'est ce qu'on appelle le principe de plaisir. C'est, je suis le centre du monde, j'ai tout ce que je veux tout de suite. Love, love. Certains à 30 ans, ils sont encore. Hein. Et là, c'est pas normal. Le deuxième axe, on verra comment. C'est ce qu'on appelle les repères sociaux. C'est ce qu'on appelle le principe de réalité. C'est ce qui permet de se socialiser. Le mot-clé de ces repères, c'est la frustration. Accepter de ne pas tout avoir. Là encore, on retrouve trois équations. Je ne suis pas le centre du monde. Je n'ai pas tout et j'attends. On verra. C'est là où le parent devient méchant, là. Le méchant parent. N'est-ce pas? C'est là où que le combat commence et que le meilleur gagne. N'est-ce pas? On se parlera de l'enfant qu'on veut faire dormir dans sa chambre et qui revient dans la nôtre. Comment il va s'y prendre? On verra l'importance de ces repères sociaux. Et le troisième champ de repères, c'est ce qu'on appelle les repères familiaux. Les repères familiaux, c'est cinq équations. Est-ce que je suis aimé? Vérification d'amour. Qui je suis? Identité. Est-ce que ce qu'on me dit est lisible? N'est-ce pas? J'ai été adopté, je suis peut-être né par procréation médicalement assistée, je suis seul avec une maman, mais comment qu'elle m'a fait? Hein? Savoir lisibilité. Et troisième élément, troisième équation, c'est je suis l'enfant de qui? Ma propre histoire. Ce que Irène Théry, une sociologue, appelle identité narrative par le récit. Petite parenthèse, pendant 22 ans, j'ai eu la chance, j'ai dit tout à l'heure, de travailler dans le sillage, enfin d'être dans le sillage très direct d'une grande dame qui a commencé par être folle, qui a fini par être sainte, c'était Françoise Dolto. Elle était un peu les deux, un peu folle, un peu sainte. Au début des années 70, on me disait, tu travailles avec la vieille folle qui parle au bébé. En 75, elle est devenue sainte, grâce aux émissions « Lorsque l'enfant paraît » sur France Inter, avec Jacques Pradel, avant qu'il ne soit perdu de vue. Et elle a été 13 ans sainte, elle est morte en août 88. C'est elle qui parlait de ses repères familiaux, et elle avait une phrase formidable. Elle disait « Quand on explique à un bébé son histoire, je sais qu'il ne comprend pas, mais je suis sûr qu'il en fait quelque chose. Hein ». On s'en dira deux mots tout à l'heure. Les capacités du bébé de comprendre. Au passage, message personnel pour les professionnels, faisons, et pour les parents, faisons attention à ce que l'on dit, des fois de négatif, avec les enfants pas loin. Pour mon travail de recherche, je filme beaucoup, je peux vous assurer, quand je vais dans des crèches, ou dans des crèches familiales, ou dans des relais assistantes maternelles, et que je vois des professionnels qui, quelquefois, parlent négativement des parents, avec les bébés qui sont à côté, eh bien, les bébés, ils ont des oreilles vachement écarquillées. Faisons gaffe à ce qu'on dit. Donc, repères familiaux. Est-ce que je suis aimé? On va tout de suite l'évoquer d'un trait de plume, d'ailleurs. Qui je suis? Quelle est mon histoire? Identité narrative. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Tu es parent. Et quelle est ma place? Quelle est ma place dans ma famille? On disait tout à l'heure, petite parenthèse, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Moi, je suis un tout petit, et puis mes parents me laissent tout faire. Alors, lundi, le week-end, ils me laissent tout faire chez eux. Et puis, le lundi, ils arrivent à la crèche ou chez l'assistante maternelle. Puis ils disent, on va lui dire à la tati les bêtises que tu as fait ce week-end. Elle va te disputer. Et bien évidemment, la professionnelle ne va pas me disputer pour les bêtises que j'ai faites avec d'autres. Par contre, quand parents et professionnels sont ensemble, j'adore par exemple être sous cet angle-là dans des crèches en fin de journée. Dans des crèches en fin de journée, au moment où les parents arrivent, l'enfant développe, repère essentiel dans ce domaine, une faculté qu'on appelle faculté d'adaptabilité. C'est quoi? C'est comprendre qu'on ne se comprend pas de la même façon avec n'importe qui dans n'importe quelle circonstance. En tant qu'être humain, c'est vachement important. Hein? Ça veut dire que les parents n'ont pas à dire aux professionnels ce qu'il faut interdire, et inversement, sauf des cas extrêmement particuliers. Il a des interdits différents chez ses parents, chez la SMAT, à la crèche, etc. Mais qui fait autorité quand tout le monde est là? Quand je suis dans une crèche et que les parents arrivent, eh bien, très vite, j'essaye de voir, facile, si on a défini qui faisait autorité. Quel que soit ce que l'on dise, c'est bien si on dit quelque chose. Si on dit, dès que les parents arrivent chez l'assistante maternelle ou à la crèche, c'est à eux d'intervenir. Ça doit être dit, intégré, pratiqué. Si on dit, tant que l'enfant est à la crèche ou chez la FMAT, c'est aux professionnels d'intervenir, ça doit être dit, intégré, pratiqué. Si on dit rien, c'est une autoroute. L'enfant va faire toutes les bêtises qu'il ferait pendant la journée, vu qu'il y a le parent. toutes les bêtises qu'il ne ferait pas chez ses parents vu qu'elle est professionnelle, le restant du discours entre adultes étant non-verbal, le papa et la maman ont le sourire autocollant d'un côté en disant naturellement « Tu vas voir la tarte qu'il va prendre dans la bagnole, il a de la chance d'être à la crèche ou chez la nounou. » La professionnelle ayant le sourire de l'autre côté en disant « Elle lui laisse tout faire. Bonne soirée, maman. » Donc, si vous voulez, importance de définir cette autorité. Restons une petite seconde de plus, juste sur le besoin de limites. Cet enfant, on l'a dit, il a besoin de limites. Mais il n'en a pas tellement chez ses parents. Et c'est dommage. Alors les professionnels essayent d'expliquer aux parents que aimer son enfant, c'est savoir lui dire oui, mais aussi savoir lui dire non. N'est-ce pas ? Mais les parents n'arrivent pas à dire non. Alors il arrive à la crèche, et puis il se dit, je vais faire la vérification des limites. Elles ont l'air bien, ces nanas-là. Elles vont savoir me dire non. Je vais faire des bêtises, grouper le même jour. Je commence, je suis à la crèche, je commence par la référente. C'est important, la référente en crèche, vous savez. Ça permet de dire à la collègue, il y a le tien qui a le nez qui coule. Et donc, la référente, on s'en rendira deux mots tout à l'heure. Donc, je commence par elle. Maman est arrivée, elle était pressée. Elle m'a amené à la crèche en disant « Oh, tu verras une deuxième fille, je vous le laisse. Il y a quelque chose dans la couche. Au revoir. » Elle se barre. Bon, c'est les exemples négatifs que je vous dis, c'est partout en France, sauf dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Hein. Il n'y a pas de malentendu entre nous. Hein. Donc, le Loupio se dit « Aujourd'hui, vérification des limites. » Il commence à être gentil, et puis boum, 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 il fait monter la pression avec la référente. Au bout de 20 minutes, hein, la ras-le-bol, elle va se le couper en tranches. Et dit à la collègue, tu t'en occupes, je ne sais pas ce qu'il a dans la peau depuis ce matin, il me gonfle. L'enfant est confié à la collègue, mais il est rusé. Donc, il fait redescendre la pression. Jusqu'au moment où la collègue numéro 2, donc, dit, ben, c'est toi qui es énervé, il est gentil comme tout. Quand elle a dit ça, tchoum, il tue la deuxième. Qu'il repasse à une troisième. Le soir, la maman arrive du boulot, crevée, elle se met dans le canapé. Pouh, quelle journée au travail. Vous en avez de la chance de vous occuper d'enfants, vous c'est reposant. Toute l'équipe est à quatre pattes. Il a tué une équipe entière pour avoir des limites. Donc, on parlera des repères familiaux. Alors, revenons à nos moutons. Petite parenthèse, mon boulot. Psychosociologue, c'est un métier. Je travaille dans le champ que l'on appelle recherche-action, je vous dirai en deux mots en quoi ça consiste, et ce, depuis 1974. C'est pour ça qu'il y a du monde au conf. Parce que d'abord, il y a de l'ancienneté, et puis tous mes concurrents sont morts. C'est un énorme avantage. Donc, ça fait plus de 40 ans que je travaille obsessionnellement sur trois thèmes. Le premier, c'est la construction des repères chez l'enfant. Quels sont les moyens nécessaires à un enfant pour construire ses repères ? Le deuxième, c'est évolution de la famille. Et inutile de vous dire qu'en une quarantaine d'années, ça a bougé. Et le troisième, c'est évolution des pratiques éducatives. Recherche-action. Qu'est-ce que c'est ? Petite parenthèse, je vais vous donner aussi ce que veut dire psychosociologue. Psychosociologue, c'est deux métiers en un. Sociologue d'un côté, psy de l'autre. Ça tombe bien, ça allait ensemble. Le sociologue, il étudie par exemple la famille, comme je le fais, comme je l'ai beaucoup fait dans le cadre de la CNAF, et il travaille avec des statistiques. On apprend à manipuler des statistiques. J'ai beaucoup travaillé sur le travail féminin, sur etc., pour donner des chiffres. Je ne vous casserai pas les pieds avec des chiffres, assurez-vous. Je ne me souviens même pas de mes cours de statistique, d'ailleurs, pour être honnête. Le seul cours de statistique de la fac dont je me rappelle, c'était le premier. Le prof de stat, comme on disait, nous a expliqué qu'en tant que sociologue, il faudrait travailler des statistiques, mais qu'un être humain, nous avait-il dit, qui a les pieds dans le four et la tête dans le congélateur, est statistiquement à bonne température, mais qu'il en crève. C'est le seul cours dont je me rappelle. En France, par exemple, on chausse mâles et femelles confondues du 41. D'ailleurs, statistiquement, hein, c'est prouvé scientifiquement. Donc on envisage de faire que des chaussures du 41. Vous voyez, c'est les fameux moules. Alors le sociologue qui étudie la famille, il met des courbes. Dans les années 80, à la CNAF, on étudiait l'évolution du travail féminin, par exemple. Bon, avec des courbes, etc. Ça a été une bombe en France. Je vous ai menti à l'instant en disant que je ne vous donnerai pas de chiffres. Je vais vous en donner un pour vous montrer ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Et on a bien pris le tournant en France. Maman de deux enfants qui travaillent à l'extérieur de chez elle, 24% en 1970. En 1990, 77%. Vous entendez bien ? C'est une bombe. Hein ? Au passage, ça veut dire que les neurones, ils sont un peu plus lents que les fêtes de société. Quand il y a un fête de société, le travail féminin, qui est un progrès qui va très vite, les neurones, des fois, il leur faut 2 ou 3 générations pour avancer. Hein ? On est encore, quelquefois, encore plombé un peu par l'idée que la bonne mère reste chez elle, à s'occuper de ses enfants, notamment dans des classes moyennes. D'où la culpabilité d'un certain nombre de mères. Alors nous, comme je vous le disais, eh ben, en tant que sociologue, on fait des courbes. Notre groupe de recherche faisait des courbes. Et il y avait un autre groupe de recherche dans un autre secteur de la CNAF, dirigé par un collègue, Didier Pleu, qui s'est spécialisé dans l'enfant roi. Il étudiait la montée de l'enfant roi. Pareil, dans les années 80, il a publié un livre, il y a une vingtaine d'années, Didier, qui s'appelle « De l'enfant roi à l'enfant tyran ». Il a continué à voir les jeunes qui grandissaient, qui devenaient adultes. Et il y a 4-5 ans, il a publié un autre livre qui s'appelle « De l'adulte roi à l'adulte tyran ». N'est-ce pas ? En montrant que, avec une proportion non négligeable, des enfants à qui on a laissé tout faire peuvent assez facilement devenir des adultes qui refusent toute frustration. Et je dois dire que ce travail, j'ai la chance dans un autre secteur d'y participer, s'oriente de plus en plus actuellement vers ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Pervers narcissiques qui, là on ne peut pas le dire parce que les travaux sont en cours, mais semblent tout à fait dans la ligne de suite de ces enfants à qui on a laissé tout faire, qui ne tolèrent aucun interdit. Les pervers narcissiques, à tout hasard, on va y revenir sur les repères chez l'enfant, mais on est dedans. Eh bien, il y a autant d'hommes que de femmes. Et les travaux, les recherches, les chiffres entre 8 et 10% de la population française. C'est énorme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bouquins qui sortent dessus, peut-être trop, par certains côtés. Ce sont visiblement des personnes, c'est la seule pathologie psychiatrique qui est dans le domaine du conscient, qui ont construit leur personnalité sur le plaisir, la jouissance d'humilier l'autre. Et c'est la seule pathologie psychiatrique où la stratégie est toujours la même. Ils se ressemblent tous, n'est-ce pas ? Comment ? Dans un premier temps, il faut trouver, il y a ce qu'on appelle le ferrage. Il va falloir trouver une proie. On va dire que c'est un homme, par exemple, notre pervers narcissique. Petite parenthèse, on en trouve autant dans le cadre professionnel que dans le cadre familial. Hein, c'est le harcèlement professionnel. Hein. Il faut trouver une proie. La proie, par exemple, pour cet homme, ça va être une femme super nana, avec un petit point en plus, encore mieux pour lui, qui doute un peu d'elle. Faites gaffe, il y en a beaucoup dans le travail social. Une fois qu'il a ferré cette proie, hop, il va jouer le caméléon. Il va lui ressembler en tout point. Oh, c'est une copine à vous. Il va vous dire, je l'ai rencontré. C'est l'homme que je cherchais. J'adore les voyages, il adore les voyages. J'adore les restaurants, il adore les restaurants. Il adore tout. Hein? Elle vous dit, mais c'est Alain Delon, il choisit Schwarzenegger un peu. Tu vois ? Elle vous le présente. Vous voyez un petit mec un peu rachot qui arrive. Mais c'est la passion, n'est-ce pas ? Une fois qu'elle est ferrée, cette proie, le deuxième stade, c'est l'isolement. Il faut la couper au plus possible du monde extérieur, des amis, de la famille, etc. Dans un huis clos, un nid d'amour, on est tellement bien tous les deux. Et une fois que le nid d'amour est créé, enfin un nid d'amour, eh bien là, la jouissance, c'est d'humilier la proie, tout en se faisant passer pour la victime. D'accord ? Tout en se faisant passer pour la victime, et comme la proie, la vraie, doute d'elle, elle est persuadée que c'est à cause d'elle. N'est-ce pas ? Petite parenthèse, tous ces prédateurs, largement comédiens, sont très séduisants à l'extérieur du huis clos familial. Quand on va chez des amis, on dit « Oh, quelle chance elle a de connaître un gars comme ça, il est formidable !» À l'extérieur, à l'intérieur, c'est un prédateur. N'est-ce pas ? S'il y a des enfants qui naissent, eh bien, ce prédateur utilise des enfants pour les mobiliser contre l'autre. Et comme il a un talent fou pour se faire passer pour une victime, les enfants souvent prennent la défense d'eux. Mercredi, je serai à Bruxelles, on travaille avec des juges d'affaires familiales sur les pervers narcissiques. Alors revenons à nos moutons. Le travail sur enfant roi, enfant tyran. Dans cette autre pièce de la TNAF, il y avait une étude qui était faite sur la montée de l'enfant roi. Et nos courbes, on a découvert par hasard qu'elles étaient superposables. Du coup, on a rapproché nos travaux et qu'est-ce que l'on a vu, psychosociologue ? Eh bien, on a vu que souvent, ces mamans qui se culpabilisaient de travailler nous disaient « j'ai que 2 heures à passer le soir avec mes enfants, je ne vais pas les empêcher de... » N'est-ce pas ? Aider l'enfant à construire des repères, on disait tout à l'heure, c'est aider le parent à construire des repères. Eh bien, je ne vais pas l'empêcher de... Et on a vu, il ne faut pas s'étonner, monter cet enfant roi. Il y a dans notre société de plus en plus d'enfants énergiques. Avant, ils étaient plus calmes. Il faut dire qu'on les emmaillotait, les bébés. Hein. Ils ne pouvaient pas bouger. Vers 1 an, on enlevait les bandelettes, donc qu'ils fassent des moulinets avec les bras, on avait encore quelques mois de repos. Mais maintenant, c'est n'importe quoi. Vous avez des gens irresponsables qui ont écrit il y a 30 ans, plus de 30 ans, des bouquins du style L'explorateur nu. Comment il fait ça ? Avec des enfants nus par terre qui cavalent des bébés. Enfin, c'est n'importe quoi. Maintenant, nos bébés sont énergiques. Énergiques parce qu'ils occupent le terrain. Les chicoufs. Et vous en avez peut-être un à la maison. C'est terrible, un chicouf. Hein, ça dort entre papa et maman, ça occupe le terrain. Ça a une baguette magique qui transforme l'homme et la femme qui leur ont donné la vie en un père et une mère à plein temps. Ils ne se voient plus du tout en amoureux, dis donc. Dès qu'ils sentent qu'il y a un petit rapprochement, ils se voient au milieu. Que faire quand on a un chicouf? Alors la réponse est simple. Premièrement, ne pas écouter ce qu'on nous dit. Parce qu'autour, on va nous dire, dis donc, ton gamin est drôlement énergique. D'autres plus techniques vont dire, il est actif. Hein. D'autres plus techniques encore vont dire, il ne serait pas un peu hyperactif. D'autres plus précis vont dire, t'as essayé la ritaline ? Une amphétamine pour les endormir. Non. Si vous avez un chicouf à la maison, n'en faites rien. Le seul truc à faire, on a parlé du huis clos familial tout à l'heure. C'est vrai que les parents sont les premiers éducateurs, mais c'est vrai aussi que le huis clos familial, il peut être profondément pathogène. Si on a un chicouf, il faut prendre un week-end en amoureux et le prêter à des amis pour le week-end. C'est très important pour le chicouf. On parle des limites là. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est expérimental, donc il faut choisir les amis qu'on a le moins peur de perdre. Week-end en amoureux, ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de week-end en amoureux. On arrive le samedi matin, on leur laisse le chicouf, on part au courant pour pas qu'ils nous le rendent, on se retrouve dans la voiture pour le week-end en amoureux. C'est pas encore gagné d'avance, parce que la plupart des chicoufs sont encore plus rusés que les autres. Ils transforment pas les deux, ils laissent l'homme être homme, et la femme, ils la transforment en mère. Certains font le contraire. Dans la voiture, en clair, vous avez un homme et une mère, ou une femme et un père. C'est mal barré pour le week-end en amoureux. Vous voyez ? Imaginons un homme et une mère. L'homme, il se dit, chouette, je vais récupérer ma femme. La mère, elle dit, on aurait peut-être dû prendre le petit.